Je me suis dit que la réforme de l'ISF était une excellente chose pour vous, pas forcément pour vous, Michel-Édouard Leclerc, encore que, mais pour les propriétaires de magasins, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs que les magasins Leclerc sont des sortes de franchises, je vais faire simple.
Ce sont des coopérateurs, ils sont en coopérative, ils ont chacun leur magasin, et tous les outils nationaux sont des outils coopératifs.
Et lorsque vous regardez les personnes les plus riches dans les régions, eh bien, sont bien souvent des propriétaires de Leclerc.
Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a, oui.
En tout cas, tous ceux qui ont un Leclerc sont
riches. Si vous avez envie de le dire, vous le dites, mais je le dis. Sur les classements de Challenge, de Forbes, puisque maintenant il y a les classements de Forbes, etc., ils ne sont pas dans les 1000 premiers, il ne faut quand même pas
les charrier. Les 1000 premiers, non, mais en tout cas, lorsque vous
Ils sont le pharmacien ou le notaire du coin.
Un propriétaire de supermarché pèse 70 millions d'euros.
Ils sont le propriétaire, ils ont l'équivalent d'un propriétaire de groupe de presse.
C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, les groupes de presse font quasiment tous faillite. C'est une très bonne nouvelle pour vous, cette suppression de l'ISF.
Ça se porte bien, non ?
Oui, mais il y en a un.
Et Claude Perdriel, ça se porte pas trop mal.
Parlons des propriétaires d'hypermarchés, si vous le souhaitez bien, Michel-Édouard Leclerc.
Allez, sachez reconnaître la bonne opposition.
Mais non, mais je reconnais tout à fait la bonne opposition. Je pense que Xavier Niel est riche, un propriétaire d'hypermarché aussi, ce qui est tout à fait légal. La suppression de l'ISF pour cette catégorie-là de patrimoine, c'est une très bonne affaire.
Moi, je vais vous dire...
Pourquoi vous boudez votre plaisir ? Sachez reconnaître...
Nous, on paye nos impôts en France. Et je ne connais pas de centre Leclerc qui ne paierait pas ses impôts en France. Et je suis pour payer mes impôts en France. Comme tous les Français, je râle quand l'impôt... Parce que l'impôt est trop fort, il est confiscatoire. Et donc, ma bataille, je la mène en France. Et puis, mon exil sera ma Bretagne.
Non, vous n'êtes pas exilé fiscal. Vous pourriez également évoquer la concurrence d'Amazon qui ne paye pas tous ses impôts en France. Mais Michel...
Centre Leclerc paye 870 millions d'impôts de plus qu'Amazon.
Donc on ne va pas payer en plus d'ISF.
Donc, si vous voulez, moi, les leçons de morale, le footballeur a droit de gagner de l'argent, le chef d'entreprise, il en gagne trop. Moi, je renvoie ça à la case départ. Je dis aux élus qui nous interpellent qu'ils règlent déjà le problème de la discrimination devant la fiscalité. En plus, la moitié des Français ne paient pas de fiscalité. Donc, je ne suis pas pour que tout le monde paye beaucoup d'impôts. Mais moi, je suis partisan que tout le monde en paye un petit peu pour savoir ce que ça fait.
Donc ça, c'est un bout de la chaîne. À l'autre bout de la chaîne, il y a une affaire qui a été portée à la connaissance du public. C'est un salarié, un ex-salarié de Leclerc qui a été licencié pour avoir mangé une banane. Son sort sera connu le 11 décembre, puisque aujourd'hui, l'affaire est jugée au prud'homme. Ce jeune homme qui a depuis intégré l'armée de terre se défend d'avoir volé le fruit et il explique l'avoir mangé parce qu'il se sentait en hypoglycémie. Comment vous vous sentez par rapport à cette affaire,
Michel? D'abord, si c'est vrai... c'est une connerie et c'est abusif. Voilà, je ne tourne pas autour du pot. La question, c'est est-ce que cette médiatisation n'est pas tout simplement la création d'un rapport de force pour améliorer les conditions d'un licenciement? Moi, je ne connais pas le dossier dans le détail.
Vous avez demandé, c'est votre franchisé de Dordogne.
Je vous réponds. Je ne connais pas. Ouais, mais vous connaissez pas non plus. Vous voyez, vous êtes tous en boucle là, sur le service public, France Bleu, France Culture, à mettre ça. Donc, si c'est vrai, c'est une connerie, c'est abusif, d'accord? Donc je peux pas être plus clair. Maintenant, je vous dis, je pense qu'il y a un rapport de force qui est créé avec utilisation, instrumentalisation des médias. Je connais pas le dossier, je vais m'en enquérir. Et puis je vais m'en enquérir auprès de la coopérative, parce que c'est pas chez Leclerc, c'est quelqu'un qui utilise la marque Leclerc. Et donc, si c'est une connerie, je le ferai savoir et je ferai retirer la plainte. Hein, je peux pas mieux répondre.
On en reparlera en tout cas pour voir.
Reconnaissez que je ne peux pas bien répondre.
Mais je reconnais que quand je pose des questions, généralement vous y répondez. Quand vous n'y répondez pas, je vous dis d'ailleurs que vous n'y répondez pas, Michel-Édouard Leclerc. Je vais continuer à être en boucle sur un sujet où là aussi les grands distributeurs sont incriminés. C'est la question du beurre. On voit que le beurre dans un grand nombre de supermarchés, la dernière fois que j'ai fait le test, c'était dans un Intermarché, c'était pas chez Leclerc. Il était absent et il y avait des petits panneaux qui mettaient, voilà, la situation nous impose à ne pas pouvoir pourvoir en beurre tous les rayons. Des agriculteurs se sont fâchés et ont fait une manifestation. Alors là, pour le coup, désolé, c'était dans un Leclerc avant-hier et on dit que...
Non, ils ont été chez tous les distributeurs. distributeurs.
Bon, ouais. J'ai vu qu'ils étaient notamment chez vous, Michel-Édouard Leclerc, ont expliqué que c'était les grands distributeurs qui ne jouaient pas le jeu. Quelle est votre analyse sur ce qui est en train de se produire sur le beurre ?
Moi, je pense que les agriculteurs, là, sont en train de se faire enfumer. On ne peut pas à la fois dire que c'est une pénurie mondiale et que c'est de la faute à Leclerc et, ou à Carrefour ou à Intermarché. On ne peut pas dire non plus, comme j'ai lu comme vous, certains syndicalistes paysans dire que c'est parce qu'on n'avait pas payé le prix. On a payé le prix, on a accepté les augmentations tarifaires, mais entre nous, il n'y a pas de beurre non plus chez les pâtissiers, chez les boulangers, et que je sache, ils ne font pas partie de centrales d'achat. Donc il y a beaucoup d'enfumage dans toute cette histoire, il y a probablement une spéculation initiale, il y a un effet d'aubaine certain, c'est que les Chinois et les Australiens et les Néo-Zélandais et les Australiens touchés par la sécheresse, vous en aviez parlé, n'ont plus assez de fourrage, n'ont pas assez de lait, et les Chinois ont suracheté énormément de quantités marginales, mais très chères. Et je pense que les fournisseurs français ont préféré aller vendre très cher en opportunité pour prendre ces marchés et auraient bien voulu faire payer aux consommateurs français le prix du beurre qu'ils ont vendu aux Chinois. Ils ont été racontés aux agriculteurs que Intermarché et Carrefour n'ont pas voulu ça. Franchement, si c'est ça, je trouve ça bien. Il n'y a pas de raison que les consommateurs français payent les surprix d'une spéculation sur le marché international. Après tout, quand c'est à la baisse, les consommateurs ne voient pas beaucoup les baisses.
Mais vous n'avez pas l'impression quand même que c'est un système, et là je ne mets pas évidemment que les distributeurs dans la boucle, comme vous dites, mais le système qui fait qu'en France, on a quand même une quantité de vaches laitières, qui semble confortable en Bretagne, dans votre région, pas seulement d'ailleurs, il y a des vaches laitières. Comment fait-on pour avoir autant de vaches laitières et aujourd'hui si peu de beurre en rayon ?
Parce que le lait, c'est comme le pétrole. On en fait plusieurs choses qui ne sont pas incompatibles. On craque le lait. Et en fait, les producteurs...
le lait pour obtenir des protéines.
Oui, c'est ça. Alors, on peut obtenir, la plupart du temps, on fait de la poudre de lait parce que ça se conserve. Ça, c'est pas du lait frais. Ça permet de faire des yaourts, de faire des gâteaux, etc. C'est que dans la Danette, il n'y a pratiquement pas de lait. Hein. Dans l'Actimel, il y a 3% de valeur de lait, etc. Donc, on fait des produits comme ça qui permettent d'être gérés, de stocker. Et on peut faire de la crème et du beurre. C'est un peu le produit lourd, c'est le mazout du lait. Et donc, il y a des moments où, pour les transformateurs, ça gagne plus d'argent de faire tel produit plutôt que tel autre. Là, les producteurs, les transformateurs laitiers, les coopératives comme les Lactalis et tout, ont préféré se faire du beurre en vendant du beurre à l'étranger plutôt que de servir les Français. Alors, cette pénurie était toute relative. Hein. Après, c'est le système médiatique qui a fait peur et qui a dit qu'il n'y aurait plus de beurre. Et là, moi, j'ai vu, même dans mon village en Bretagne, mon boulanger, qui m'a confirmé qu'il n'en avait pas, est allé au drive du centre Leclerc s'acheter toutes les plaquettes qu'il a trouvées. Donc après, c'est la pénurie qui s'entretient. Mais ça va. Moi, je pense que ça revient là dans les quelques jours qui viennent. La leçon, je pense, a été prise. Mais les consommateurs ont stocké et ont surgelé du beurre, quoi.
Au-delà de ça, Michel-Édouard Leclerc, on voit bien qu'il y a quand même une situation qui est extrêmement paradoxale sur l'agriculture française, avec le prix des matières premières. Alors là, c'est le prix du beurre. On est au-delà de 6 000 euros la tonne, alors que d'habitude, on était plutôt aux environs de 3 000 euros. Tandis que les producteurs de lait peuvent avoir des difficultés pour vivre. Et là, désolé de vous le dire, vous le savez d'ailleurs, les distributeurs sont accusés de réaliser des marges trop importantes au détriment de ces agriculteurs. Que répondez-vous à ces critiques qui sont régulières ?
Je réponds de manière un peu cynique, quoi, parce que les jours pairs, on dit que la distribution fait trop de marges. Et les jours impairs, aux états généraux de l'alimentation, on leur demande de faire plus de marge pour faire moins pression sur les agriculteurs. En fait, c'est de la logorée. Moi, ça fait 40 ans que je connais ça, et je connais ça depuis que je suis tout petit, depuis que j'accompagnais mon père. Au début des centres Leclerc, on n'avait pas de centrale d'achat. Dans la réalité, c'est que les marchés agricoles français ont vécu pendant 30 ans des temps très très glorieux, avec des subventions à gogo. Et faut savoir que avant les années 2000, c'était 150 milliards d'euros de subventions par an, en plus du prix qui était déversé sur l'agriculture française. Ça lui a permis de se moderniser. C'était un bon choix politique. On est devenu gros exportateurs. Mais aujourd'hui, la PAC coûte trop cher. Il y a quand même eu 100 milliards d'euros en 10 ans déversés sur l'agriculture. Faudrait peut-être se poser la question de savoir comment se fait qu'il y ait des pauvres encore dans l'agriculture ? Qui a eu cet argent ? Où est la commission de transparence ?
Qu'est-ce que vous sous-entendez ?
Je veux dire que Il n'y a plus de politique agricole commune, il n'y a pas de politique solidaire entre le monde paysan. Catégorie de producteurs par catégorie de producteurs, ils ne se soutiennent pas. Et au fond, chacun essayant de faire son fric face à son mode de commercialisation, on se retrouve finalement piégé par des querelles franco-françaises qui nous empêchent de faire alliance avec d'autres pays européens pour affronter le marché mondial. En plus, le marché mondial, voyez-vous, c'est plus un marché avec des producteurs qui feraient de la bonne alimentation et des consommateurs qui chercheraient de la bonne bouffe. Au milieu, maintenant, il y a la financiarisation. Les matières premières agricoles deviennent des outils de placement. Il y a trop de liquidités monétaires sur les marchés. Et vous avez des fonds chinois, des fonds russes, des fonds sud-américains qui font de la spéculation, qui achètent de la matière première, de la poudre de lait, du cacao, etc. Et ça rend volatile le cours des produits. Or, il n'y a aucun mécanisme de régulation aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas un ultralibéral. Je serais assez pour rétablir les quotas laitiers, ou à défaut, que les professionnels de l'agriculture nous disent par quelles règles du jeu ils veulent être gouvernés. Constatez qu'aujourd'hui, aux états généraux de l'alimentation, on met tout sur le dos des rapports avec, mettons, Carrefour, Intermarché, Lidl et autres. Or, en fait, nous n'achetons pas les produits à la ferme. Vous comprenez, c'est ça le paradoxe. Vous m'interrogez sur pourquoi pas payer le lait plus cher à la ferme, pourquoi... Mais j'achète pas à la ferme, c'est pas moi qui fais le prix du lait.
En fait, aujourd'hui, aux états généraux de l'alimentation, on a notamment assisté à une guerre entre Leclerc et la FNSEA.
Oui, parce que il y a eu une guerre dans les états généraux, et c'est moi qui l'ai lancée. J'ai eu vent qu'il y avait une connivence, pour pas dire une entente, entre les industriels de l'agroalimentaire, les grandes marques, y compris multinationales, avec certains distributeurs, Carrefour, Casino, Système U, vous voyez, je cite.
Et ils
s'étaient mis d'accord pour obliger tout le monde, Leclerc, Intermarché, ça, à relever les prix de l'ordre de 0 à 15%, de mettre une marge minimale sur les articles. Ce serait le consommateur qui aurait payé beaucoup plus cher ces milliers d'articles. Et certes, ça aurait enrichi le distributeur et ça aurait enrichi la multinationale, mais celle-ci se serait engagée à redonner le produit de cette surmarge aux agriculteurs. C'est pipeau. Enfin, il n'y a aucun mécanisme qui rend un capitaliste généreux par engagement. Alors, c'est pas sur France Culture, vous allez me contredire.
Non, mais Culture que je vais vous dire que la question qui embête Leclerc, donc qui vous embête, Michel-Édouard Leclerc, c'est la question des ventes à perte. Alors, ces ventes à perte...
Ah non, mais ça, je suis pour les condamner, ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, il n'y a pas de question sur les ventes
à perte. Sauf qu'il faut aussi tout dire aux auditeurs. C'est-à-dire qu'une vente à perte, de toute façon, c'est illégal. Donc, vous ne pouvez pas les autoriser, a priori.
Je suis contre la vente à perte.
Bon, ben ça, tout le monde est contre, puisque c'est la loi. En revanche, il y a des manières d'organiser des ventes à perte qui sont plus malines. Par exemple, on achète les produits en margeant et ensuite, on installe, par exemple, des têtes de gondole payantes, c'est-à-dire des manières
Vous engluez, là.
Je vais m'engluer encore quelques secondes pour permettre aux auditeurs de se faire une opinion. On organise, bref, un certain nombre de choses payantes qui font qu'au final, les personnes qui vous vendent, ils sont parfois de leur poche.
Ouais. Enfin bon, je sais pas où vous m'amenez, je comprends pas trop, mais par contre, il y a une chose que je
faire des ventes à perte déguisées.
Je trouve, si vous voulez, qu'avec ce que je vous donne comme explication et comme scoop sur cette entente qui aurait amené 7 à 8 000 articles à augmenter de 5 à 15% dans nos magasins sans qu'on puisse s'en expliquer, c'est sûr que j'ai tapé dans le tas. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que le président de la République à Rungis est revenu sur ce sujet et il a dit qu'il n'était pas question qu'on augmente les prix aux consommateurs sans garantie qu'il s'agisse bien de produits agricoles et que ça aille bien dans la poche des agriculteurs. Et donc il a conditionné une telle opération qu'il n'a pas agréée. Il a conditionné une telle opération à un mécanisme au sein des interprofessions pour que cet argent aille aux agriculteurs. Je vous ferai remarquer aussi que c'est pas Michel-Édouard Leclerc qui est tout seul. Toutes les organisations de consommateurs ont pris position contre cette entente, Que Choisir, CLCV, l'UFC, et puis toutes les ONG sont parties des états généraux. Donc vous voyez, c'est pas une guerre personnelle. C'est juste que les agriculteurs étaient en train de se faire enfumer par les industriels et certains distributeurs, comme l'avait d'ailleurs préannoncé le Canard Enchaîné.
Alors donc ça, on vous a bien entendu, vous refusez d'augmenter vos prix de 5 à 15%, ce qui va évidemment aller droit au cœur de tous ceux, c'est-à-dire de nous tous qui faisons nos courses, mais dans le même temps, les agriculteurs, pas seulement les agriculteurs de la FNSEA d'ailleurs, d'ailleurs, considèrent que leur niveau de vie est trop faible. Alors ceux de la FNSEA, les gros agriculteurs, peut-être que certains tirent bien leur épingle du jeu, mais on sait bien qu'il existe des agriculteurs pauvres. Que peut-on leur proposer? Qu'est-ce que Leclerc, qu'est-ce que les grands distributeurs peuvent faire?
Ben, acheter plus cher. Moi, j'ai rien contre le fait d'acheter plus cher aux agriculteurs. Simplement, pour s'entendre avec un agriculteur et acheter à un prix supérieur au marché, il me faut un cadre légal. Et donc, je demande aux États généraux de l'alimentation que les autorités de la concurrence nous créent un cadre légal en cas de crise, en cas de pauvreté, de manière à ce qu'on puisse acheter le lait, la viande, certains légumes plus cher. Par contre, ce que je conteste, c'est qu'on m'oblige à le refacturer au consommateur, qu'on me le laisse le prendre sur mes marges. La dynamique commerciale doit continuer. Mais si le pouvoir public veut qu'on achète plus cher que le prix du marché, qu'il le dise, et d'ailleurs il le dit, mais il ne crée pas les conditions de le faire, alors qu'il le fasse.
Il y a la quantité, il y a le prix et puis il y a la qualité. Sur la question du bio et sur la question donc de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, il y a eu encore récemment un scandale des œufs au fipronil. Il y a des interrogations aussi sur les différentes conséquences d'une alimentation non bio. Quels sont les engagements que peuvent prendre aujourd'hui les distributeurs à cet égard, Michel Douin?
Moi, je suis très transparent. D'ailleurs, vous me trouverez toujours. Je sais m'autocritiquer. Moi, j'ai comme ambition d'amener l'enseigne Leclerc sur le podium des marques les mieux disantes en matière de développement durable et en matière de nutrition d'ici 2020. Donc, j'ai pas beaucoup le temps, mais s'agissant du retrait des pesticides, des perturbateurs endocriniens, de monter en gamme des produits, de devenir leader sur le bio, c'est le délai que nous nous sommes donné. Nous sommes déjà deuxième sur les produits bio. Nous sommes en train d'évincer tous les perturbateurs endocriniens. C'est des sujets que je ne connaissais pas il y a 3-4 ans. Hein. Nous n'avons pas été formés à ça. Mais j'y vais à 400 à l'heure avec mes compagnons, avec mes collègues des centres Leclerc. Et je pense que ce sera là-dessus qu'il faudra que je sois jugé.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, puisqu'il y a donc le bio dans lequel vous êtes assez offensif, il y a aussi l'épicerie fine? Oui. Vous allez installer...
L'épicerie plaisir, ouais.
Bon,
ouais.
Vous allez installer un certain nombre de rayons d'épicerie fine dans vos magasins, dans les magasins Leclerc. Est-ce que ça ne signifie pas que l'hypermarché, il est en train aujourd'hui de monter en gamme, tandis que vous subissez la concurrence et surtout la concurrence à venir, puisqu'il y a eu d'importants mouvements dans la distribution. Il faut dire, par exemple, qu'Amazon a racheté Whole Foods, qui est un grand distributeur de bio aux États-Unis. Amazon arrive avec beaucoup d'argent. Amazon arrive aussi avec des réductions d'impôts. Vous avez dit tout à l'heure que vous payez vos impôts en France. Ça n'est pas forcément le cas d'Amazon. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de vous préparer à refondre les hypermarchés, Michel-Édouard Leclerc?
Ah, mais on s'y prépare. On est dedans depuis 5 ans. Nous sommes déjà le deuxième distributeur digital en France. Le premier, c'est Amazon, et le troisième, c'est Cdiscount, et au milieu, c'est nous. En 2020, 10% du chiffre d'affaires sous l'enseigne Leclerc sera réalisé à partir du digital. Donc, oui, mais ça veut dire aussi que nous sommes omnicanal, c'est-à-dire que l'hyper restera le navire amiral, mais un hyper revalorisé, revitalisé, avec des emplois supplémentaires pour accompagner les clients, et pas simplement des robots, avec aussi un plaisir d'achat qui ne sera pas incompatible avec la défense du pouvoir d'achat. Je crois qu'on maîtrise assez bien notre modèle et ce sera intéressant de savoir si Amazon ou Alibaba, parce qu'il y a aussi Alibaba et d'autres...
Le Amazon chinois,
il y aura aussi le Amazon japonais, etc. Ce sera intéressant de savoir si les ministres de l'agriculture auront la même audience avec eux qu'avec nous.
Pourquoi? Parce que vous trouvez...
Française. Parce que nous sommes très franchouillards. C'est un Breton qui vous le dit. Regardez l'exploit. Et donc, autant moi, je vous réponds très facilement, un coup de main à donner aux produits français, j'y vais. Mais quand demain, la distribution sera multinationale, internationale, et sera réalisée par des algorithmes, je vous assure que ça posera d'autres problèmes.
Michel-Édouard Leclerc, est-ce que vous n'avez pas peur finalement que la concurrence soit inégale entre Amazon, Leclerc et les autres marques de distributeurs français? Quand on voit par exemple Amazon face à la Fnac, eh bien la Fnac Digital a eu du mal. Et aujourd'hui, alors qu'ils avaient la possibilité d'être de sérieux concurrents, c'est Amazon qui a une bonne part de marché sur la vente de produits en ligne.
La concurrence est toujours inégale. France Culture n'est pas dans le même rapport d'égalité avec Europe 1 ou avec RTL. Donc on a des... La grande distribution, ça n'existait pas, pas plus que la grande radio. Hein. On a chacun nos points forts. Donc celui qui va gagner ou celui qui va survivre, c'est celui qui aura la meilleure promesse commerciale et j'ajouterai la première promesse sociétale. J'ai la chance...
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que les gens auront envie de vous écouter ou de venir chez nous parce que on aura une offre.
Vous voulez faire comme nous, faire des produits de qualité.
Exactement. Voilà. Et donc, avec nos espaces culturels, déjà, nous vous avons bien copié. Nous sommes d'ailleurs partenaires sur un
Absolument.
Certain nombre de services.
Ce qui ne m'a pas empêché de vous maltraiter, mais...
Mais vous traitez très bien, ça me permet de vous rectifier. Et non, simplement vous apportez quelquefois des sujets techniques de manière stéréotypée. Et donc
Moi je ne suis pas distributeur, je suis journaliste.
À l'ère du nouveau média, c'est fini ça. Les gens décrochent de ça, ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas faire preuve de leur inintelligence de dire ça.
Je vous ai parlé d'un licenciement perçu comme abusif.
Ah non, ça je vous ai répondu, direct.
Non mais vous me répondez, si vous ne me répondez pas, je vous ai dit que vous me répondiez pas.
Non mais si vous voulez aller parler des taux promotionnels, des marges arrière, etc. D'ailleurs on voit quand vous le dites que vous ne faites pas vos courses. Hein. Je voulais vous dire.
Je fais mes courses. Alors là, je les fais. Alors je les fais scrupuleusement, mes courses. Au contraire, malheureusement, je ne les fais pas chez Leclerc parce que je n'ai pas de Leclerc à côté de chez moi. Mais par contre, sur les marges arrière, je peux repartir. Vous savez très bien, Michel-Édouard Leclerc, qu'il y a des possibilités de faire des ventes
à perte. Je suis content.
De faire des ventes à perte sans nécessairement acheter à perte. Mais on va évoquer des sujets plus culturels. Une dernière chose, justement, sur les espaces culturel Leclerc, Michel-Édouard. Lorsque vous êtes dans la redéfinition de l'hypermarché, j'ai vu que...
On est devenu le deuxième libraire de France.
Et alors justement, comment ça se passe? Parce que les libraires ont beaucoup souffert cette année. On a évoqué dans la question du jour les prix littéraires et Elisabeth Philippe, qui était notre invitée, nous a dit que les libraires attendaient avec impatience les prix littéraires parce que les méventes avaient été fortes, comme toutes les années électorales. Votre point de vue sur...
Moi, je crois que dans le domaine de la culture, c'est l'offre qui fait la demande. Et donc, il faut surinvestir dans la présence des livres partout dans les bonnes librairies, mais aussi partout sur le parcours des clients, sur le parcours digital, mais sur le parcours physique. Je pense qu'on ne peut acheter un livre que si on sait que quelqu'un l'a écrit. Et donc, il faut qu'on le voit. Il y a pas de pub. Les éditeurs se sont tirés une balle dans le pied en s'interdisant à faire la pub à la télé à l'heure de grande écoute sur les sorties de livres. Hein. On connaît tout, nos enfants connaissent tout, des jeux vidéo, etc. Mais pas des publications de Nathan Jeunesse, etc. Donc moi, mon système chez Leclerc, c'est de mettre beaucoup de livres en avant. Et de fait, aujourd'hui, on a un secteur livre qui marche très très fort, avec le prix Landerneau, avec des festivals comme Cultirissimo. Et si je prends un autre concurrents, pour ne pas parler que de nous, comme Cultura, ils se débrouillent très bien aussi, vous voyez. Donc, il y a de la place encore pour le livre physique, d'autant que le livre digital ne décolle pas. La formule de la liseuse ne prend pas. Hein. Alors, peut-être parce que c'est une génération, mais il nous reste à gagner la bataille du passage générationnel. Mais en tout cas, aujourd'hui, le livre se porte bien, et l'édition aussi.